Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du Festival de Cannes qui a ouvert ses portes cette semaine, je vous propose exceptionnellement de parler de cinéma dans notre émission littéraire avec un roman qui se déroule dans les coulisses de ce célèbre festival en 1949, année où le grand Orson Welles, réalisateur et acteur américain, auteur du chef-d'œuvre Citizen Kane, était présent sur la croisette, ce qui a inspiré à notre invité dans un instant, Jean-Pierre de Lukovitch, un roman tout à fait réjouissant, intitulé « L'assassinat d'Orson Welles » dans la collection Grand Détective chez 10-18, une comédie policière aussi documentée qu'inventive, c'est à suivre.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Mais en attendant, nous allons parler d'un autre monstre sacré, à savoir la poétesse américaine Sylvia Plath, à qui le nouveau numéro de Books consacre un long article. Bonjour Baptiste Touvray.
Bonjour Catherine.
Dans cette double édition juillet-août avec un dossier spécial Napoléon, figure incontournable en ce bicentenaire de la mort de l'empereur français, vous allez nous parler à notre plus grand bonheur d'un article inédit signé Michel André qui, suite à la publication en anglais d'une nouvelle biographie, revient sur cette œuvre singulière de Sylvia Plath, stoppée en plein vol par la mort de l'écrivaine. Mais avant d'en arriver à cette fin tragique, est-ce que vous voulez bien, pour commencer, Baptiste Touvray, nous rappeler les débuts de cette femme née en 1933 à Boston?
Oui, c'est des débuts très précoces, et il fallait, puisqu'elle est morte très jeune à 30 ans. Elle a perdu son père à 8 ans, Sylvia Plath, son père qui était professeur de biologie à Harvard, un homme d'origine allemande, très sérieux, et du coup sa femme, la mère de Sylvia Plath, qui était une femme qui avait fait des études, qui avait sacrifié son avenir professionnel à la carrière de son mari, a reporté toutes ses ambitions littéraires sur sa fille. Ce qui fait que très tôt, Sylvia Plath s'est mise à écrire des poèmes, et très tôt elle a maîtrisé toutes les techniques de versification de la poésie, et son premier poème est paru 9 mois seulement après la mort de son père, donc elle avait 8 ou 9 ans, il est paru dans une revue de Boston.
Et ensuite elle fait des études assez brillantes.
En 1950, elle entre au Smith College, qui est une excellente université pour jeunes filles. Elle y fait des très bonnes études, et alors ce qui est étonnant, c'est que évidemment elle va découvrir un certain nombre de grands auteurs comme Dostoïevski, Thomas Hardy, Joseph Conrad, mais elle ne se consacre pas uniquement à ses études. C'est quelqu'un qui est extrêmement sociable, pour qui les flirts par exemple et l'amitié sont quelque chose de très important, et surtout c'est quelqu'un, c'est pas une poétesse évaporée, c'est quelqu'un qui est, et c'est ça qu'on apprend dans cet article, qui est très ambitieux.
Hélas, en 1953, il y a une première rupture importante dans sa vie de jeune fille. Elle a 23 ans.
Elle a 23 ans et c'est sa première dépression. Elle va être internée à l'hôpital McLean de Boston. On essaye d'abord avec elle la psychothérapie, les injections d'insuline. Ça ne marche pas. Et la psychiatre qui la suit va prescrire des électrochocs. Ça va être une expérience vraiment traumatisante pour elle. Pourtant, elle n'en veut pas à cette psychiatre avec qui elle va continuer à correspondre pendant le reste de sa vie, à qui elle voue une grande admiration.
Et ce sera aussi le sujet d'un de ses romans, de son roman, La cloche de détresse, où elle parlera de ce milieu de la psychiatrie. Alors après 6 mois d'internement à l'hôpital, elle retourne au Smith College, elle est diplômée, elle va soutenir une thèse, et puis elle part en Angleterre, où là elle fait une rencontre majeure, à savoir Ted Hughes, qui est aussi un grand poète dont elle va tomber amoureuse.
Oui, qui est un peu tout le contraire d'elle. Elle est issue de la classe moyenne, bourgeoise, américaine, urbaine. Ted Hughes est d'un milieu beaucoup plus modeste, beaucoup plus campagnard. Il aime les animaux, les grands espaces. Et pourtant, il y a une attirance physique et intellectuelle intense entre eux pendant plusieurs années. Ça va vraiment être l'osmose totale. Elle a une très belle phrase pour le décrire. Elle dit « grand, sombre, beau, le seul suffisamment immense pour moi ». C'est magnifique. Et ils vont, pendant plusieurs années, s'aider mutuellement. Lui est poète, comme elle. Le problème, c'est que lui va connaître le succès et elle, non.
En effet, ils vont se marier avec cette passion pour la littérature qu'ils ont en commun et cette écriture chacun de leur côté. Ils vont avoir deux enfants, faire quelques allers-retours entre les États-Unis et l'Angleterre où finalement ils s'installent définitivement. Mais comme vous le disiez, Baptiste Touvré, même si elle a beaucoup de talent, qu'elle est très exigeante et qu'on sent que son écriture s'envole, c'est lui qui a plus de succès.
Oui, à un moment donné, ça finit par créer de l'aigreur entre eux. C'est-à-dire qu'elle regrette le temps qu'elle lui a consacré et lui supporte de plus en plus mal sa détresse à elle, ses humeurs tempétueuses. Il a l'impression qu'au moment, lui, où il trouve le succès, où justement, il peut avoir une vie mondaine, et en fait aussi sentimentale, des opportunités sentimentales nouvelles, elle veut l'enfermer. Et en fait, la rupture est consommée quand elle découvre qu'il la trompe avec une jeune femme mariée de leur connaissance.
Donc voilà, elle a du talent, elle publie son premier recueil de poésie en 1960, le seul de son vivant. Mais là, se commence le déclin avec l'infidélité, la solitude, l'incompréhension. Et elle met fin à ses jours en février 1963, elle se suicide au gaz.
Oui, et alors la période qui précède cet événement dramatique, comme souvent dans ces cas-là, et pour un certain nombre d'artistes, ça va être la plus féconde de sa vie. Elle va écrire une quarantaine de poèmes qui vont être publiés d'ailleurs par son époux à titre posthume, son ex-époux Ted Hooks, et qui sont considérés comme les plus beaux qu'elle ait jamais écrits, parce que c'est le moment où elle s'affranchit de certaines contraintes. Elle garde la division en strophes, mais elle abandonne les rimes. Et elle continue aussi à écrire un journal, mais le journal de cette les tout derniers journaux seront détruits par Ted Hughes.
Une vie courte, hélas, mais une œuvre considérable, puisqu'en effet, il y a des poèmes, il y a des articles, critiques littéraires, des nouvelles, des histoires pour enfants. Et c'est ce qu'on apprend aussi avec cette nouvelle biographie qui paraît en anglais, qui n'a pas été encore traduite en français. Et c'est sur quoi conclut l'article de Michel André, c'est qu'elle laisse un héritage fabuleux.
Il la qualifie comme ça, Michel André, de Marilyn Monroe de la littérature, parce que elle est morte très jeune, elle était très jolie, blonde,
très solaire,
elle se suicide. Et bon, contrairement à Marilyn Monroe, elle a pas connu la gloire de son vivant. C'est plutôt une gloire posthume, mais aujourd'hui, elle est considérée comme la plus grande poétesse de langue anglaise du XXe siècle.
Et à dire encore que son dernier poème est publié juste après cet article de Michel André, c'est un poème que l'on peut lire en version originale et en français. Il s'intitule « Edge, extrémité », dans une traduction de Valérie Rousseau. Voilà, tout à découvrir dans cet article intitulé « Ange et démon » de Sylvia Plath de Michel André dans le nouveau numéro du magazine Books juillet-août. Merci beaucoup Baptiste Touvré.
Merci à vous.
Et on se retrouve donc à la rentrée pour une prochaine chronique. Et nous continuons l'émission avec le portrait d'une autre légende, Orson Welles, avec ce roman qui se déroule en 1949 au Festival de Cannes, où l'acteur américain était en lice pour la Palme d'Or d'interprétation avec son rôle Le Troisième Homme, aussi resté célèbre par la bande originale du film signée Anton Karas. Bonjour Jean-Pierre Delukovitch.
Bonjour.
Grâce à notre radio consoeur de France Bleu Rouen, nous sommes en duplex avec vous aujourd'hui pour parler de votre roman qui tombe à pic en cette semaine où vient de s'ouvrir le Festival de Cannes, décalé en juillet pour cause de pandémie, puisque vous racontez vous aussi les coulisses de la manifestation, mais cette fois en 1949, année où était invité Orson Welles pour présenter Le Troisième Homme, film de Carol Reed dont il était l'un des interprètes. Donc jusqu'ici, tout est vrai, mais l'auteur de romans policiers que vous êtes a imaginé qu'un tueur avait tiré sur la star américaine pendant le festival, d'où le titre de votre livre, L'assassinat d'Orson Welles, paru chez 10-18. Et là, bien sûr, on est dans la fiction. Alors, cette comédie policière qui est très enlevée, très documentée et donc très réussie, s'inscrit dans une série qui a pour héros Jérôme Dracena, un détective privé très cinéphile qu'on a déjà vu à l'œuvre dans « Occupe-toi d'Arletty », la comédienne, et « Satan habite au 21 » en référence au film « L'assassin habite au 21 ». Comment se fait-il, Jean-Pierre Delukovitch, que vous soyez passionné à ce point par le cinéma français des années 40 ?
Oh, alors écoutez, ça, ma cinéphilie remonte très loin parce que quand j'avais 16-17 ans, j'allais au ciné-club du quartier latin où on gelait en hiver, on était assis sur des sièges en bois, mais on voyait tous les classiques, parfois dans des copies qui n'étaient pas formidables. Mais j'ai toujours eu la passion du cinéma, je ne sais pas d'où elle me vient. Je crois peut-être mon père, les premiers films que j'ai vus, c'était Robin des Bois, vous voyez ce que c'était. Et puis après... Je ne sais pas, toujours, j'ai été passionné par le cinéma, toujours. Puis, pour les années 40, parce que je suis très passionné par l'occupation,
oui.
Par ce qui s'est passé, comment les Français ont vécu l'occupation à Paris, parce que c'était très spécial de vivre l'occupation à Paris. Et donc, là, j'ai eu cette idée, et puis en plus, j'adore Arletty. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de ce mélange-là, de m'occuper d'Arletty, si je puis dire, qui a eu des ennuis à la Libération, parce que quand même, elle a vécu pendant l'occupation avec un officier allemand. C'était pas rien.
Oui.
Voilà.
Donc effectivement, les premiers livres se passent sous l'occupation. Là, on est plus en 1949, donc Dieu merci, la Libération est venue entre-temps. Donc cette fois, c'est Orson Welles qui est au cœur de votre roman, j'imagine, parce que vous êtes un grand fan aussi, Jean-Pierre Delukovitch.
Ah oui, ça évidemment, bon, ça a été un véritable choc quand j'ai vu Citizen Kane. Et bon, je l'ai revu comme tous les fans de Welles ou du film, je l'ai revu 10 fois évidemment, et c'est un film qu'on peut revoir 10 fois parce que à chaque fois il faut le revoir, tout d'un coup on se dit on regarde plus les acteurs et on regarde la façon dont c'est fait, quoi, qui a été révolutionnaire. À ce propos, je me suis aperçu hier, je sais pas si vous le saviez, c'est qu'à 6 semaines près, c'est le 80e anniversaire de la sortie de Citizen Kane. Voilà.
Et vous faites un portrait d'Orson Welles absolument savoureux. Et ce qu'on découvre avec vous, Jean-Pierre Delukovitch, c'est que le réalisateur et acteur américain parlait parfaitement le français, c'est cela ?
Oui, évidemment, quand il parle un français parfait, si je puis dire. Oui, mais alors, peut-être que je voudrais que je vous dise comment je l'ai connu, Orson Welles, parce que ça peut vous amuser.
Vous
ça.
Voulez dire que vous l'avez rencontré ?
Oui, je l'ai rencontré, oui.
Ah, mais oui, racontez-nous, bien sûr.
Alors, il faut vous dire que dans les années 60, moi j'ai passé les années 60 à Paris Match, où j'étais journaliste et où je m'occupais de People. Bon. Et je travaillais beaucoup avec un des photographes historiques qui s'appelait Willy Rizzo, qui avait participé à la fondation du journal. Et Willy Rizzo était devenu un ami et il était marié avec Elsa Martinelli. Elsa Martinelli tourne dans le procès que fait Orson Welles. C'était en 63, ça. Bon. Et un soir, elle m'appelle, le matin, elle m'appelle, elle me dit on fait un petit dîner à la maison pour Orson Welles, si tu ne fais rien, viens dîner. Évidemment, je ne faisais rien, et si j'avais fait quelque chose, j'aurais tout décommandé. Quoi. Bon.
On est bien d'accord.
Donc, j'arrive chez eux, sur le chemin, je me dis, bon, le dîner pour Orson Welles, on va être 50. Quoi. Bon. J'arrive, on était 5. Sans Orson Welles. Bon, alors on était là, on buvait un verre et Orson Welles arrive. Alors là, arrivé magnifique avec une cape noire, un chapeau noir, vous savez, dans le genre de la publicité du Porto Sandman, vous voyez ?
Oui. Bon.
Voilà. Et donc, on fait les présentations. Et il était en pleine forme. Donc, on s'assoit. Et puis, on commence à bavarder. Il était de très bonne humeur. Et il s'aperçoit que j'étais cinéphile. Voilà. Bon. Non seulement j'avais vu son film 10 fois, mais ça, peut-être que ça l'intéressait pas beaucoup que quelqu'un lui reparle encore de Citizen Kane. Mais j'avais vu énormément de films et on commence à parler comme ça. Et tout d'un coup, on parle d'une série américaine, de films américains des années 50 qui était subventionnée par l'État anticommuniste, vous voyez. Alors, il y avait un film célèbre qui s'appelait « J'étais un communiste pour l'FBI ». Voilà, bon. Alors, on commence là-dessus, lui, ça le faisait rire, et on commence à inventer des noms. J'étais danseur pour le KGB, enfin voilà. Bon, alors, on rigole beaucoup. Et puis, le dîner se passe très bien. Et puis, il s'en va. Bon, il disparaît dans la nuit avec sa cape noire et son chapeau. Et alors, 20 ans plus tard, j'ai un rendez-vous à l'hôtel Lancaster avec, un producteur. Et j'attends, et la porte de l'ascenseur s'ouvre et Orson Welles sort. Il me voit, il me pointe du doigt en hurlant de rire et il dit « J'étais un communiste pour le FBI ». Qu'est-ce que vous pensez de ça comme mémoire ?
C'est magnifique. Il se souvenait de vous et des blagues que vous faisiez en 1963.
Voilà. C'était les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Orson, si je me permets de l'appeler par son prénom.
Vous avez raison. Donc, Jean-Pierre de Lukovitch, non seulement vous êtes un fan d'Orson Welles, en plus, donc, vous avez eu la chance de le rencontrer, comme vous venez de nous le raconter. Alors, pourquoi, du coup, situez-vous votre intrigue pendant l'édition du Festival de Cannes en 1949? Est-ce que c'est parce que, selon vous, elle était vraiment particulière ou parce que c'était une année un peu charnière dans sa carrière, sachant qu'en effet, il est à la fois entre le succès planétaire de Citizen Kane, son chef-d'œuvre, et en même temps à l'aube de son film Othello, qu'il a du mal à monter. Donc pourquoi Kane en 1949, alors qu'il présente un autre film, en l'occurrence, qui est Le Troisième Homme, comme on l'a déjà dit?
Justement, c'est que 49, c'était bien, parce qu'il y avait l'histoire du Troisième Homme, où il était, à un moment, le bruit a couru qu'il aurait le prix d'interprétation.
C'est vrai, voilà. Que finalement a eu Edward J. Robinson.
C'est ça, exactement. Et lui, c'est-à-dire que ce qu'il dit dans le livre là est complètement vrai, parce qu'il l'a dit, c'est que quand on sortait du film, on se souvenait de lui, que de lui, pratiquement.
Même s'il avait un rôle
très bon.
Même s'il avait un rôle assez réduit, en l'occurrence, parce qu'il n'apparaît qu'aux deux tiers de ce film magnifique, en l'occurrence.
Oui, mais c'est un tel choc, tout d'un coup, quand on le découvre dans une porte cochère, dans l'ombre avec un chat à ses pieds, que les gens ont été frappés. Et en plus, il avait écrit ses propres dialogues, là. Et donc, il a pas eu de prix. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'ambiance du Festival de Cannes en 49. Voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, en effet, c'est que c'est aussi une époque où il a beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, c'est le postulat de votre roman, Jean-Pierre de Lukovitch.
Oui.
C'est bien parce qu'il reçoit des lettres de menaces et de chantage que le détective français est chargé de le protéger parce que Orson Welles s'est fait beaucoup d'ennemis. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler pourquoi on lui en veut à ce point et de tous les côtés ?
Mais d'abord, il soutenait Roosevelt, il soutenait les droits des Noirs. Et il y avait des gens qui disaient que c'était un communiste. Alors dans l'Amérique des années 50, c'était pas marrant pour quelqu'un d'être traité de communiste. Voilà. Il était détesté par les deux commères de Hollywood, Luella Parsons et Da Hopper, parce qu'il était marié avec Kate Hayworth. En plus, ça se passait pas bien. Alors et puis en plus, c'était un personnage à part. Il y avait le scandale de Citizen Kane, surtout, quand Citizen Kane est sorti et que la presse Hearst a donné des ordres pour qu'il n'y ait pas une ligne sur le film.
Oui, puisqu'il s'inspirait en effet d'un homme de médias célèbre, Hearst, et que du coup, il a engagé toute une série d'actions pour que le film ne sorte pas, ce qui n'a pas réussi. En plus, le film a eu le succès planétaire qu'on connaît.
Oui, mais Welles a raconté que quand il a présenté le film dans plusieurs villes américaines, à Pittsburgh, par exemple, un ami à lui lui a dit « Ne rentre pas à ton hôtel ce soir, il y a une gamine de 14 ans qui t'attend dans le placard et deux photographes pour être piégée. » Voilà. Et donc... ça lui a permis de continuer à faire du cinéma quand même, mais ça a été énorme dans le sens où ça en a fait un presque dieu, si vous voulez, à cause de Citizen Kane.
Donc, comme on l'entend avec vous, Jean-Pierre Dulukovitch, c'est un roman qui est vraiment très, très documenté, avec aussi l'apparition en guest star de Pierre Brasseur, par exemple, Daniel Gélin, Rita Hayworth, Simone Signoret, et j'en passe, avec cette intrigue très rythmée, portée aussi donc par Jérôme Dracena, parce qu'il y a Welles et Dracena, qui est un ancien flic devenu privé, qui est aussi à l'occasion acteur, photographe, grand séducteur, qui fait la tournée des Grands-Ducs, des meilleurs restaurants de Paris, de la Côte d'Azur. Enfin, c'est un personnage comme on n'en voit plus aujourd'hui dans la littérature contemporaine. C'est aussi par nostalgie des romans de Simenon, par exemple, que vous l'avez créé ?
Oui, un peu. Surtout, moi, l'écriture de Simenon est ce qu'il y a de mieux au monde. Pendant le policier, on n'a jamais fait mieux, sauf aussi bien les auteurs américains comme Dashiell Hammett ou Chandler. Bon, c'est autre chose. Mais j'aime bien ce personnage qui est un séducteur, qui peut être violent aussi, et qui, d'un coup, devient un esclave d'Orson Welles, parce qu'il est subjugué quand même. Orson Welles fait de lui ce qu'il veut. Toutes les scènes qui se passent, je veux dire, ne serait-ce qu'au restaurant, Jérôme mange ce que Orson lui donne l'ordre de manger. Et Orson le tient, il y a les tours de magie, tout d'un coup, il le touche et il sort un petit lapin blanc de la veste de Jérôme, etc.
Est-ce que c'est vrai, ça, d'ailleurs? Est-ce qu'il était un peu magicien, Orson Welles?
Ah, il était complètement magicien, parce que quand il était enfant, il était venu en Europe avec ses parents, et il avait rencontré Houdini, le célèbre magicien, qui était une vedette mondiale. Et Houdini lui avait appris la magie. Alors, il était très passionné de magie. Et il avait fait des numéros à Hollywood avec Dolores del Rio. Et donc, il avait une aventure avec Dolores del Rio. Et en même temps, il faisait un numéro de magie, souvent pour les troupes américaines, vous voyez, pour les distraire. Et non, c'était un magicien. Alors bon, après, quand il est devenu célèbre, il n'en faisait plus, ou alors il était capable de faire un petit gag comme ça, mais il se produisait plus pour le faire. Mais c'est ça aussi qui est fascinant chez Welles, parce que les magiciens sont des gens qui font disparaître la réalité et qui manipulent, voilà.
Comme les réalisateurs.
Donc, oui, c'est ça, voilà.
En tout cas, c'est un portrait vraiment magnifique que vous faites d'Orson Welles. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est cigare, whisky, glamour et petite pépée, pour plagier un film de titre de l'époque. Mais oui, de façon un peu plus sérieuse, il m'a semblé, Jean-Pierre Dulukovitch, que vous aviez abordé entre les lignes aussi la question du harcèlement sexuel à Cannes, avec par exemple dans une scène, une actrice américaine qui dit clairement qu'elle est sous le joug de son producteur, qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Alors, ça veut dire que tout ça et ce mouvement MeToo existe depuis longtemps. Est-ce que vous en aviez été témoin à Cannes, Jean-Pierre Dulukovitch?
Non. Personne n'était témoin de rien, si vous voulez. Ça se passait, le harcèlement sexuel, les mots n'existaient pas, déjà. Ça se passait dans les studios ou dans les villas des producteurs ou des metteurs en scène. Plus de producteurs que de metteurs en scène, d'ailleurs. Mais non, l'actrice dont vous parlez, c'est Maria Astor, qui a tourné dans Le Faucon Maltais. Et donc, elle était comme toutes les actrices, là. Même les stars étaient victimes de ça, parce que Rita Hayworth était aux ordres de Harry Cohn, qui était le producteur le plus monstrueux et le plus haï d'Hollywood et qui lui, chaque fois qu'il pouvait lui pourrir la vie, il lui pourrissait la vie. D'abord, il était amoureux d'elle et il détestait le fait qu'elle soit mariée avec Orson Welles, naturellement, parce que Orson Welles, c'était le contraire exact d'Harry Cohn. Voilà. Bon. Et donc, oui, alors ça, quand vous lisez l'histoire de Hollywood, tout le monde était, si vous voulez, contrôlé. Et je ne vais pas dire torturé, ça serait idiot, mais tout le monde était contrôlé par le studio, et c'est le studio qui faisait la loi. Alors le harcèlement sexuel, je crois que les gens n'en parlaient même pas parce que ça se passait comme ça, quoi.
Oui, mais néanmoins, vous devez vous réjouir, vous aussi, que le Festival de Cannes en particulier, puisque c'est l'actualité, se soit assaini de ces pratiques odieuses.
Oh, bah, bien sûr. En plus, je veux dire, c'est tellement, c'est même une sorte de caricature, le producteur avec l'actrice. Bon, là, ce cliché était devenu monstrueux à cause de Weinstein, parce que ça a été un coup de tonnerre, une explosion du fait en plus, parce que Weinstein, c'était un harceleur multiplié par 1000. Quoi. C'était un monstre.
Donc, revenons à votre roman qui, lui, est plus sous le signe de l'amour du cinéma. Et pour preuve, la fin dont on ne peut rien dire tellement rebondissement est magistral et inattendu. On peut juste dire que vous avez transformé l'adage « la réalité est plus forte que la fiction » par « la fiction est plus forte que la fiction », tellement la chute est vertigineuse. Alors, juste une toute petite question. Est-ce qu'Orson Welles avait, selon vous, l'intention peut-être de réaliser en effet un documentaire sur le Festival de Cannes ou pas ?
Non.
Ça aussi, c'est de votre invention ?
Oui, ça, je l'ai inventé parce que ça m'arrangeait pour l'histoire, pour quand ils arrivent à Cannes, quand Orson Welles dit à Jérôme, vous allez tenir un journal pendant que je suis là, parce que je voudrais faire un documentaire après, je reviendrai, je prendrai l'opérateur de Citizen Kane, etc. Bon, voilà, ça, je l'ai inventé, ça.
Bon. En tout cas, je rassure les auditrices et les auditeurs, je n'ai pas du tout spoilé la fin, là, c'est juste une question subsidiaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre de Lukovitch, de nous avoir parlé avec tant de bonheur et d'Orson Welles, encore une fois, dont vous faites un portrait merveilleux, et de ce Festival de Cannes en 1949 que vous faites revivre dans ce roman policier tout à fait réjouissant, intitulé « L'assassinat d'Orson Welles » et qui est apparu aux éditions 10-18 dans la collection Grand Détective, qui pourrait aussi faire l'objet d'une adaptation en série peut-être, ou pour grand écran, et être, rêvons un peu, projeté à Cannes, pourquoi pas. En tout cas, la boucle serait bouclée. Et merci aussi à France Bleu Normandie Rouen qui vous a accueilli dans ses studios et grâce à qui nous avons pu réaliser ce duplex avec les studios de RFI pour cet entretien.
Merci beaucoup à vous, ça m'a fait très plaisir.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En sol majeur.